ici et maintenant face à l'agitation du monde, en direct dans les studios d'Escapade. Jusqu'ici, ça va. Ne pas rester indifférent à l'agitation du monde. On garde du rythme, de l'ouverture et un certain goût pour la transgression qui s'impose presque malgré nous dans une société où la norme vire au sécuritaire. Bienvenue dans Altermidi en Escapade. Le volet international occupe une partie de cette émission consacrée à la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions. Média interrégional, Altermidi ne se limite pas aux critères habituels qui cloisonnent l'info locale. De Saint-Hippolyte à Marseille, de Montpellier à Toulouse, nous sommes tous concernés par les effets de ce conflit et rien ne nous empêche d'en mesurer les causes et les conséquences. Si l'effet le plus palpable s'affiche dans les stations d'essence, il bouscule aussi l'ensemble de notre économie, impacte notre pouvoir d'achat et nos modes de vie. Notre collaborateur marseillais René Naba, journaliste spécialiste du Proche-Orient et du Maghreb, était récemment de passage à Montpellier pour une conférence sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. L'occasion de revenir sur le contexte révélateur de cette affaire, nous avons profité de sa présence de René pour recueillir son point de vue sur l'opposition historique entre l'Iran et les États-Unis. Dans la rubrique médias, nous évoquerons le mouvement des journalistes et des pigistes de médias indépendants qui se désolidarisent de la couverture médiatique de la guerre au Moyen-Orient. Nous rendrons compte également de l'action des médias indépendants contre la procédure Bayon, les procédures Bayon. Et nous avons choisi de consacrer une grande partie de cette émission à la crise mondiale déclenchée par les frappes israélo-américaines en Iran, au mépris du droit international, en choisissant de s'attacher aux causes et aux enjeux, ce que permet le fait d'être un petit média, plutôt qu'aux conséquences comme la cause du prix du carburant. Depuis le 28 février, les bombardements menés par les États-Unis et Israël ont certes réduit les capacités militaires de leur principal ennemi au Moyen-Orient, mais ils ont également mis en branle une vaste machinerie guerrière impliquant le Liban, les monarchies du Golfe et les alliés de l'Iran. Les frappes ont aussi bouleversé l'économie mondiale avec la fermeture du détroit d'Ormuz, passage maritime essentiel au commerce mondial d'hydrocarbures. La bourse de New York décroche, le spectre de l'inflation est de retour, les prix dans la zone euro ont grimpé de 2,5% sur un an en mars. 10 États membres de l'UE ont enregistré une hausse des prix à la consommation supérieure à 3%. L'incapacité du président américain à esquisser une issue inquiète les investisseurs. Et le feu allumé en partie pour des raisons de politique antérieure, en braquant l'attention sur le conflit plutôt que sur les nouvelles accusations le mettant en cause dans l'affaire Epstein, et en passe d'enflammer la planète. La guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires. On comprend en général en creux cette phrase attribuée à Georges Clemenceau, que c'est aux hommes politiques de diriger la guerre, plutôt qu'à ceux dont le métier est de se battre sur le champ de bataille. Mais si cette responsabilité revient à ceux qui nous gouvernent, cela suppose, dans une démocratie comme la nôtre, que nous puissions leur accorder notre confiance sur leurs intentions. En France, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, mais la Constitution attribue des pouvoirs propres au président de la République. Comme chef des armées, il est le seul détenteur du feu nucléaire. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale en cas de menace grave et immédiate contre les institutions de la République et si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, l'article 16 de la Constitution peut être déclenché, ce qui permet au président de la République d'exercer tous les pouvoirs législatifs et exécutifs. Dans une démocratie comme la nôtre, il n'est pas futile de rapprocher ce cumul des pouvoirs à la confiance que portent les citoyens français au chef de l'État. Celle-ci est mesurée tous les mois dans un baromètre de popularité IFOP. en date du 29 mars, celui-ci indique que seuls 23% des Français se disent satisfaits d'Emmanuel Macron, qui gagne néanmoins 5 points par rapport au mois dernier. Cette légère hausse de notoriété reste très fragile. Elle se joue en partie dans la capacité à résister à la pression que Donald Trump exerce sur les pays européens pour les entraîner dans un conflit où ils ont tout à perdre. Le 3 mars, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement d'importants moyens militaires vers la Méditerranée orientale, notamment le porte-avions Charles de Gaulle, son groupe aérien embarqué et ses navires d'escorte. Le déploiement du groupe aéronaval est un signal qui démontre la volonté de Paris à garantir ses intérêts dans la région. La projection de ses capacités militaires peut aussi renforcer la capacité de Paris de peser dans la résolution du conflit. Emmanuel Macron a souligné que la projection des forces françaises dans la région était strictement défensive. Elle vise à protéger et restaurer la paix. Il a récemment refusé le survol du territoire français à certains avions américains contenant des équipements militaires à destination d'Israël et du Moyen-Orient. La réaction ne s'est pas fait attendre. Mardi 31 mars, les États-Unis et Israël s'en sont pris à la France, l'accusant d'entraver leurs efforts de guerre. Les deux pays à l'origine de l'opération Führer épique contre Téhéran, qui aboutit aujourd'hui à un blocage presque complet du détroit d'Ormuz, ont tous deux réagi, accusant la France d'entraver leurs efforts de guerre. Dans la foulée, l'État hébreu a répondu en annonçant vouloir mettre un terme à ses importations d'armement françaises, qui ne sont à vrai dire pas très conséquentes. Donald Trump s'est aussi emparé du sujet, en dénonçant de manière virulente sur son réseau Truth Social l'attitude française. La France n'a pas laissé les avions à destination d'Israël chargés de matériel militaire survoler son territoire. La France est très peu aidante concernant le boucher d'Iran, qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront, a écrit le président américain. Quelques jours après, il poursuivait sur un ton similaire, accusant l'ensemble des alliés européens de l'OTAN d'être des lâches. Quelle est la véritable détermination du président français à ne pas emboîter le pas à l'opération Führer épique le 25 mars 2026, presque un mois après le début de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran? La situation au Moyen-Orient a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. L'occasion pour le Premier ministre d'affirmer que la France ne se laisserait pas entraîner dans la guerre qu'elle n'a pas choisie. Mais jusqu'où le gouvernement maintiendra-t-il cette résistance passive? Si les pressions s'intensifient, il est encore trop tôt pour le dire. En 1945, les conflits au Proche-Orient et au Moyen-Orient sont un révélateur des tensions entre les pouvoirs exécutifs et législatifs en France quant à la conduite de la politique étrangère. La Ve République a marginalisé le Parlement avant que les révisions constitutionnelles de l'année 2008 réintroduisent un lieu de délibération. Mais si la politisation est forte autour de ce débat, l'instabilité demeure chronique et limite la capacité du Parlement à orienter la politique étrangère. L'hémicycle est une arène de confrontation et non un lieu de contrôle structuré. Comme nous le voyons depuis des mois, débattre de la guerre au Moyen-Orient renvoie à l'exercice d'un contrôle politique sous contrainte. la crise de 2025-2026 pointe dans le sens d'une délibération qui reste asymétrique, révélatrice d'une centralisation encore réelle de la politique étrangère et d'un parlementarisme qui a certes retrouvé une voie, mais reste très encadré. À propos du conflit opposant Israël et les États-Unis à l'Iran, nous vous proposons d'écouter le point de vue de notre collaborateur marseillais, René Nabat, journaliste spécialiste du Proche-Orient, en poste à l'AFP à Beyrouth de 1969 à 1979, puis à Paris de 1979 à 1989, où il a piloté le service diplomatique de l'AFP du monde arabo-musulman.
Le contentieux entre l'Iran et les États-Unis et Israël remonte à 1953. En 1953, il y a eu un gouvernement nationaliste qui a pris le pouvoir. Un gouvernement aux élections, il a pris le pouvoir, c'est Mohammad Moussadegh, et il a nationalisé les installations pétrolières. C'était la première nationalisation du tiers-monde. La CIA a organisé un contre-coup d'État. Le Shah d'Iran avait fui à Rome, il n'avait pas défendu son trône. Ils ont organisé un contre-coup d'État, ils ont renversé Mossadegh et ils ont ramené de Rome le Shah d'Iran. Donc le contentieux est antérieur à l'arrivée de la révolution islamique iranienne. Le problème pour l'Amérique, c'est que dans cette zone du Golfe, le fait qu'il y ait une révolution populaire dans une zone monarchique, dans une zone pétrolière, et une révolution populaire et chiite, c'est-à-dire le segment minoritaire de l'islam, c'était à proprement intolérable pour l'Amérique et Israël. Une révolution populaire chiite dans une zone sunnite pétrolière, ça donnait des idées à tous les peuples de la région. Et nous, si l'Iran l'a fait, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas la population d'Arabie Saoudite, pourquoi pas la population de Bahreïn. C'est pour ça que vous voyez dans tout le Golfe, il n'y a que des bases américaines face à l'Iran. L'Iran, dans le Golfe Persique, a 1000 km de rivage. C'est le seul pays qui a une continuité territoriale sur 1000 km. En face, la rive arabe, il y a 7 pays avec 8 bases américaines ou anglaises ou françaises. Et en plus, les pétromonarchies du Golfe a dépensé dans les 800 milliards de dollars en armement, non pas pour se défendre, pour servir de base de départ contre l'Iran. C'est ce qui explique que maintenant, il y a des représailles. Ils ne peuvent pas abriter des bases américaines. Le Qatar abrite la plus importante base américaine hors de l'OTAN. Et elle part de là-bas, la base américaine. Elle n'a jamais défendu le Qatar lorsque l'Israël a lancé un raid contre le Qatar. Il a tué un responsable palestinien. Donc, ils sont servis, les pétromonarchies du Golfe, leur fonction, c'est d'être une immense base américaine et pour éponger les déficits publics américains consécutifs à leur politique belliqueuse.
Alors ces bases actuellement, elles sont la cible du régime iranien. Comment est-ce que... Alors ces pays arabes, on sent qu'ils sont un petit peu dans l'incertitude quant à une riposte possible. Comment vous voyez la position des pays arabes aujourd'hui et peut-être demain ?
Ah non, ça c'est un rapport de force qui se compte. Il y a tout un basculement des rapports de force qui est en train de se faire. Si l'Iran ne s'effondre pas, elle aura été une victoire par défaut, parce qu'elle fait face à l'unique puissance atomique de la zone et à la première puissance planétaire militaire de tous les temps. Deux adversaires coriaces, et elle résiste, elle donne des ripostes. Deuxièmement, on dit que l'Iran est une menace existentielle. Une menace existentielle pour qui ? Pour l'Israël ? Israël est la seule puissance atomique de la zone et qui n'a pas ratifié le traité de paix. Alors pourquoi ? Elle terrorise tout le monde. Le droit à l'existence d'Israël, tout le monde le préclame. Mais ça ne veut pas dire que le droit à l'existence d'Israël implique le droit à l'insécurité des pays arabes. Israël intervient au Yémen, en Syrie, au Liban, en Palestine, en Iran, au Soudan, partout. Le droit à l'existence d'Israël n'implique pas le droit à l'insécurité permanente des États arabes. Il faut que les Occidentaux comprennent ça.
Alors aujourd'hui, il y a aussi cette problématique du détroit d'Osmous.
Ah, ça c'est le double standard, c'était une chose qui était valable tant que l'Occident dominait le monde. Mais l'Occident, de moins, est en régression.
Mais pour ce qui concerne l'Occident, mais je vais prendre juste le cas de l'Europe, qui semble quand même assez réticente à s'engager, même s'ils sont appelés très fortement, y compris les pays du G7.
Ils n'ont pas été consultés. C'est une magouille entre ça, parce qu'ils répondaient chacun à des considérations électoralistes. Trump a lancé la bataille, on oublie l'affaire Epstein. On n'en parle plus maintenant. Israël, il tape, on oublie Gaza, on oublie les scandales, les responsabilités de Benjamin Netanyahu dans l'affaire du 7 octobre, on oublie ses procès en corruption. Donc, pour des considérations électoralistes, il tape, plus personne n'en parle. On parle du régime des Mollahs, du terrorisme, les proxys, tous les thèmes que les commentateurs de Pacotti qui inondent nos chaînes de leur savoir bidon, ça ne permet pas de poser les vrais problèmes.
Tout à fait, mais il y a quand même un enjeu présent qui est-ce que l'Occident européen va s'engager ou pas dans ce conflit ?
S'il s'engage, il signe sa mort. Là, il est en train de décliner. Il s'engage, il est mort. C'est un mort cérébral, khalas. On n'en parle plus. Mais je pense qu'ils ont compris que c'est un... D'abord, l'Iran a résisté 25 jours et elle donne des coups. Elle donne des coups. Même le Hezbollah est en train de résister. Il n'y a pas de percée israélienne dans le sud du Liban. Il y a beaucoup de destruction, démoli. Mais Israël, c'est le seul pays qui définit unilatéralement ses frontières. Il n'a pas dit quelles étaient mes frontières. J'occupe la Cisjordanie, je m'en fous du droit international. J'annexe le Liban. Ça ne va pas. Il attaque la Syrie est un régime allié d'Israël, mais il l'attaque. Il attaque le Liban via la Syrie.
Alors, sur la question libanaise, bon, il y a quand même un mouvement au niveau de la population qui tend à condamner le Hezbollah.
Ça, c'est une conception occidentale. Ils disent le Hezbollah a suicidé le Liban. Moi, je dis une chose avec clarté. Le suicide d'un pays vient de sa capitulation. La France n'a pas encore assez payé le prix de sa capitulation et de sa collaboration avec l'Allemagne nazie. 70 ans après, elle en paye le prix. Alors, Hezbollah, il ne capitule pas. C'est l'honneur du Liban de mourir pour la patrie, alors que les autres collaborent avec l'ennemi. C'était vicié déjà depuis la création du Mont Liban. Depuis la création du Liban, il y avait un accord tacite entre l'église maronite et l'agence juive. Donc, la constitution du Liban était déjà biaisée, déjà avant l'indépendance. Il y avait une collusion entre les minorités chrétiennes et juives du monde arabe. C'est un tort des chrétiens, pas tous les chrétiens, il y a des chrétiens patriotes, mais la frange est irrédentisme du maronitisme politique. Voilà.
Au-delà de l'axe politique, je pose la question du peuple, la question du peuple, qu'il soit iranien ou libanais, aujourd'hui, comment il se trouve, ce peuple ?
Il y a deux choses. Le peuple iranien, c'est un vieux peuple. Et il a de la fierté, il a une connaissance. L'Iran, le monde arabe et le monde musulman est redevable à Liban. Les meilleurs linguistes du monde arabe sont des Iraniens. Les chimistes, Khawarizmi, le logarithme, c'est un Iranien. Et Al-Farabi, c'est un grammairien, c'est un persan, un perse, un farisi, on dit en arabe. Et les Arabes leur donnent la linguistique arabe est redevable à ce monsieur-là. Donc il y a beaucoup de créations qui doivent à l'Iran. Donc l'Iran face à l'agression, le peuple se soude, il n'abandonne pas. L'armée n'a pas encore fait défection. Aucun n'a fait défection.
Alors pour conclure, quelle hypothèse on peut porter sur la fin de ce conflit ?
Ils supportent. Et non, mais ils ont été faits. Personne. Au Liban, il y a une tradition d'aliénation. Certaines franges de la communauté chrétienne, plutôt maronite, se considèrent comme des occidentaux meilleurs que les Arabes. Ils ont un mépris pour les musulmans. Et c'est une honte. On peut être compatriote d'un pays, quelle que soit sa religion, et être fier de sa diversité. C'est le tort et le suicide des chrétiens arabes.
Quelles sont les hypothèses après la fin de ce conflit qu'on peut porter aujourd'hui ?
Si, je te dis toujours, si l'Iran ne s'effondre pas, ce sera une défaite morale de l'impérialisme américain.
Merci.
Tap.
People, un hommage au peuple libanais de la DJ libanaise Nicole Moubaber. Vous êtes avec Altermidi sur Radio Escapade. Et on va retrouver notre collaborateur René Naba, journaliste spécialiste du Proche-Orient et du Maghreb, qui propose une analyse incisive de l'affaire Georges Ibrahim Abdallah à l'occasion de l'apparition de son livre « Georges Ibrahim Abdallah, l'emmuré de Landmanzan, un homme debout ». Il met en lumière les contradictions profondes de la France entre principes affichés et pratiques politiques, ainsi que les pressions internationales qui ont façonné une affaire devenue symbole des dérives de la raison d'État.
Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est Albert Camus. Et toute ma vie, dans ma conception du journalisme, j'ai considéré que la fonction d'un journaliste n'est pas d'être un passeur de plat, ni d'un servir de brosse à l'huile, mais de pointer du doigt là où ça fait mal, de dénoncer les turpitudes ou les dysfonctionnements. Le hasard de la vie a voulu que je sois à des postes de responsabilité au moment où l'affaire Georges Ibrahim Abdallah a éclaté. Elle a éclaté en 82, c'est-à-dire au moment de l'invasion israélienne, non du Sud-Liban, mais Beyrouth, la capitale, face à la démission complète, quasi générale du monde arabe, Beyrouth a été le dernier carré de la contestation. Il y a eu les abus, les massacres de Sabra Shatila, il y a un groupe de révolutionnaires qui a voulu porter la riposte, dans la mesure où il y avait une conjoncture internationale contre la cause palestinienne et des militants résistants libanais, il a fallu porter la riposte sur le terrain de l'adversaire. C'est pour cela que les attentats qui ont ciblé l'attaché militaire américain et l'attaché militaire israélien, ce n'étaient pas des objectifs terroristes, c'était des attaques ciblées contre des institutions, des symboles de la présence militariste, soldatesque, israélienne et américaine. Il se trouve, peu de gens le savent, que l'attaché militaire américain était l'agent de l'antenne de la CIA à Paris. Et Yaakov Barsimantov était l'antenne de la Mossad à Paris. Donc ce n'était pas un terrorisme aveugle, c'était ciblé. L'attentat a eu lieu et les choses ont commencé. Moi j'étais en fonction, donc à un moment donné, au fur et à mesure que l'affaire se développait, j'ai relevé, je vais dire poliment parce qu'on va m'accuser d'être en français, je vais dire les dysfonctionnements du système français, pour ne pas dire les turpitudes. Je dis les dysfonctionnements. On va voir ce qui s'est passé. Georges Ibrahim Abdallah, il y a eu l'attentat, et à un moment donné, il s'est senti poursuivi par le Mossad. Peu de gens le savent. Il a été à Lyon, se déclarer dans un commissariat, il va dire « Je suis poursuivi par le Mossad et on va m'assassiner ». On lui dit « Votre pièce d'identité pour faire une main courante ». Il présente sa pièce d'identité, c'était un passeport algérien, dûment délivré par les autorités algériennes. Ils lui ont dit « Mais c'est pas vous, Mohamed Sarr dit « C'est pas vous, vous dites que vous êtes Georges Ibrahim Abdallah, le Mossad qui vous poursuit ». Donc, on l'intercepte pour usage de faux. Il n'avait rien à voir avec les attentats non plus. Ça, la première fois, à ce moment-là, il a été intercepté. Et donc, il y a, vous savez, la France paye encore jusqu'à maintenant sa culpabilité avec la collaboration vichyste avec le génocide hitlérien. Elle a une culpabilité éternelle, on ne pourra jamais. Chaque fois, les Israéliens ou les Français de confession juive lui rappelleront ça, donc elle devra faire du zèle infiniment. Donc, il est arrêté sur la base d'un faux passeport. Il n'est pas impliqué dans les assassinats. En 84, il y avait une pression du lobby pro-israélien, pour ne pas dire autrement,
éviter les accusations d'antisémitisme, et du lobby américain, l'atlantisme. Il fallait un coupable. Donc, subitement, le monde annonce que c'est Georges Ibrahim Abdallah, c'est l'auteur de l'attentat. Il n'y avait aucune preuve. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'avec la pression, le ministère de l'Intérieur téléphone à un journal du Monde. Je ne cite pas de nom, je ne veux pas faire des règlements de compte. Téléphone à un journal du Monde qui avait l'habitude de ses écoutes avec le ministère de l'Intérieur. Ils disent, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Donc, cet éditorial-là, qui était un jour une grande plume célèbre, qui était réputé. C'est vous qui le dites. Moi, ok, mais c'est Edouard Plenel. Bon, il fait un grand papier. Il dit, donc d'ailleurs, l'affaire de Greenpeace aussi, c'était Jacques qui lui avait filé l'information pour déstabiliser Fabius et Charles Hernu. Bon. On ne va pas rentrer dans les mougouilles de la France française parce qu'on va parler tellement critiquement de la France que vous allez me considérer que je suis un anti-français alors que je fais une analyse critique d'une situation critique. À ce moment-là, c'était installé que Georges Ibrahim Abdallah était responsable des assassinats. Sur quelle base on a impliqué Georges Ibrahim Abdallah ? Sur le fait que dans une perquisition de la DGSE, on a trouvé dans une maison des armes, des documents, des affiches et un Tippex. Vous savez ce que c'est qu'un Tippex ? C'est le machin qui gomme les fautes, les horreurs. Et il y avait les empreintes de Georges sur le Tippex. Le Tippex, pas sur une arme, pas sur les affiches, pas sur des verres, sur le Tippex. Donc on l'a impliqué. C'était un peu aléatoire. 2 ans après, comme il y avait beaucoup de remous et c'était pas évident, Plenel, de nouveau, dit « On a trouvé l'arme du crime dans un journal enveloppé, dans un papier journal arabe enveloppé. » Ceux qui connaissent l'arabe, j'ai sa chance, j'ai beaucoup de défauts, mais au moins je parle l'arabe. Je suis né en Afrique, donc j'ai une culture synthétique de l'actualité. Le journal arabe était daté de 84. L'attentat a eu lieu en 82. Comment ? Ce revolver était dans un... Alors que lui, Georges, était déjà incarcéré depuis 2 ans, comment ce journal avait enveloppé un pistolet qui serait supposé appartenir à Georges. Ça commençait à devenir lâche. Mais il y avait le lobby qui... À ce moment-là, l'Algérie, qui était impliquée par le passeport, propose sa médiation. Entre-temps, les Libanais, le FARC, force... Action révolutionnaire libanaise, pas résistance, révolutionnaire libanaise, avait pris en otage Gilles Perrault, le fils de Gilles Perrault, l'auteur d'un remarquable ouvrage sur le Maroc. Sidney Perrault avait été pris en otage, il était consul du Liban à Tripoli, il avait été pris en otage. Pour le libérer, les Français avaient fait intervenir les Algériens. Les Algériens leur disaient, on va libérer Georges, mais... À charge de revanche, on va libérer Sidney Perrault, à charge pour vous de libérer Georges Ibrahim Abdallah. À ce moment-là, la France promet. Lorsqu'on a libéré Sidney Perrault, la France a sorti l'histoire du revolver dans un journal post-daté. Donc on dit on ne peut pas le libérer. C'est une première turpitude. Cette deuxième turpitude-là, la promesse tenue, il n'a pas été libéré, mais l'autre a été libéré. Donc il y a une dette d'honneur. Ça va continuer comme ça. Entre-temps, la pression américaine et israélienne continue. D'une manière permanente. Ce qui s'est passé dans cette histoire-là, il y a eu une personne qui a été accusée d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné à... Il devait être libéré en 2012-2013. C'est ça. Il y avait une dépêche du département d'État, Hillary Clinton, qui avait envoyé un message à Manuel Valls et à Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, qui leur disait « Faites en sorte qu'il ne soit pas libéré. » Et donc, Valls n'a pas signé. À partir du moment où il n'a pas signé l'obligation de quitter le territoire, il est resté. De 2013 à 2025, 22 ans, il a été injustement incarcérés. Alors on me dit que c'est la France est la patrie des droits de l'homme. C'est bien plus grave que ça. Pourquoi cet acharnement sur Georges Ibrahim Abdallah ? Georges Ibrahim Abdallah, comme peu de gens le savent, n'est pas seulement un chrétien. Georges, on peut être chrétien, protestant, il est maronite. Maronite, c'est la communauté protégée. Georges est élève des écoles chrétiennes françaises, les frères maristes. Il est doublement francophone. Georges, sa sœur est religieuse. On ne peut pas être plus catholique, plus chrétien. Mais dans cette affaire, la France n'est pas la protectrice des chrétiens pour protéger les chrétiens. Georges est chrétien, elle aurait dû démontrer son innocence, le libérer et essayer de trouver le vrai coupable. La France considère que le fait d'être protectrice des chrétiens d'Orient, c'est un protectorat et non pas une protection. C'est-à-dire qu'un chrétien qui ne s'aligne pas sur les thèses françaises est une brebis galeuse, il est rejeté. La France est un pays protecteur des chrétiens d'Orient, mais en fait, il est un protectorat sur les chrétiens. Deuxièmement, c'est un pays, l'unique pays du monde qui se réclame de la laïcité. Or, le Liban, il a accordé l'indépendance sur une base confessionnelle qui est une négation du principe de la laïcité. Voilà une deuxième turpitude majeure. C'est ce qu'on ne voit pas beaucoup dans cette affaire-là. Le principe de la laïcité avait été adopté en 1905. L'indépendance du Liban en 1943. Près de 40 ans après, on crée un Liban sur une base confessionnelle, sur une base religieuse. C'est une négation du principe de la laïcité. Ensuite, Georges a été condamné. Il y a un principe de la primauté de la justice sur les autres considérations. Il n'a pas été libéré au bout de 20 ans, alors qu'il était injustement condamné. Il n'a pas été libéré, obligation de quitter le territoire, on ne l'a pas exécuté. Pire que ça, dans ses démarches, les pressions qu'il y avait auprès du pouvoir français, l'interlocuteur de l'ambassadeur, c'est le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a le monopole des relations diplomatiques et le chef de l'État. Or, l'ambassadeur d'Israël en France, quand il voulait faire des démarches pour faire pression, maintenir en prison Georges Ibrahim Abdallah, il n'allait pas au Quai d'Orsay. Il allait au ministère de l'Intérieur, il y avait Valls. C'est une infraction au principe du primat diplomatique du Quai d'Orsay. Voilà la quatrième. Au passage, je dois vous dire une chose, l'indépendance du Liban a été accordée en 1943. En 1943, il n'y avait pas encore la 4ème République, c'était le régime de Vichy. Et les Français, dans leur grande bonté, n'ont pas reconnu l'indépendance du Liban, parce qu'il n'y a pas une lutte, c'est les Anglais qui manipulaient pour affaiblir la France au Levant. Elle a concédé l'indépendance au Liban, dans un geste de générosité, alors qu'elle capitulait, qu'elle avait sabordé sa flotte à Toulon, qu'elle collaborait avec l'Allemagne, elle nous concède son indépendance sur une base confessionnelle. C'est pour vous dire un peu le délire mental du pouvoir français.
حبيبي كتبوا المال.
Vous êtes avec Alter Midi sur Radio Escapade. On retrouve le journaliste René Nabat, retracé le contexte et les embroglio autour de son livre sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah.
La France, dans l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, je ne parle pas des turpitudes parce que le premier avocat qu'il a eu, Majorier, c'est un avocat commis d'office parce qu'il n'avait pas les moyens. C'était un avocat de la DGSE, un agent de la DGSE qui a été commis d'office comme avocat. C'est dans le livre. Hein. Non seulement il était de la DGSE, bon, il avait des mœurs, il était drogué, homosexuel, bon, il était très vulnérable au chantage. Et un jour, un mois après, donc il faisait tous les rapports au DGSE, il essayait de... mais Georges était très politique, donc il n'a pas donné beaucoup d'informations. Et l'autre lui dit, mais qui a fait ça? Si c'est pas toi, donne-moi le nom. À un moment donné, il y a un livre qui a révélé qu'il a été rayé, il a été complètement carbonisé, il est parti. Donc il y a un premier piège, un agent de la DGSE. Ce seul fait aurait dû annuler le procès et recommencer un nouveau procès. La France ne l'a pas fait. Le principe de l'indépendance de la justice. Deuxièmement, à un moment donné, la France a fait venir Monseigneur Hilarion de Capucci, l'archevêque grec catholique de Jérusalem, c'est Mahorite ça, qui était pro-palestinien, qui avait accusé de collaborer avec les Palestiniens, de transporter des armes. Il a été emprisonné, il a été libéré par la bataille. Il était en exil à Rome. Israël veille à ce qu'il n'y ait pas des éléments représentatifs palestiniens dans les territoires qu'il contrôle pour qu'on dise qu'il n'y a pas d'interlocuteur palestinien. On fait venir Monseigneur, ça j'étais présent, mais vraiment de bout en bout. Pasquale l'invite à Paris, il dit, tu vas parler avec Georges, on va voir un peu comment on peut sortir ça. On l'amène à la prison, et, ça je sais de Monseigneur Capucci, on met une vitre en tin, et derrière la vitre, il y avait un agent de la DGSE arabisant, il y en a beaucoup, la faculté de Sciences Po d'Aix, est un nid d'espions. On recrute tous les arabisants pour les transformer en agents de la DGSE. J'ai déjà écrit un papier là-dessus. Donc, on installe un agent de la DGSE arabisant derrière le miroir et on laisse Georges et Capucci, Monseigneur Capucci parler. Il voulait décrypter le langage labial. Capucci, qui a fait la prison en Israël, qui s'y connaît, qui est un vétéran, il est arrivé face à Georges dans la prison. Il a mis ses mains comme ça. Il a dit à Georges, mets tes mains comme ça. Et on se sont parlé pendant une demi-heure. Donc ils étaient, comme on dit pudiquement, blousés. Vous feintez. Ce qui s'est passé le lendemain, comme il était furieux, parce que moi, j'étais à l'AFP de service. Je reçois un coup de fil. On me dit, mais Monseigneur Capucci n'est pas là à la demande du gouvernement français. Moi, j'écoute. Il est là pour voir sa maîtresse. Ah, sa maîtresse. Et pourquoi il a parlé à Georges? J'ai dit, ah oui, d'accord, j'en prends le nom. Et il y a une formule que j'utilisais tout le temps quand je voulais mettre quelque chose à la poubelle. Excusez-moi, parfois je dirais l'expression, mais dans le bon sens. Mais pour eux, c'était autre chose. J'ai dit, je vous remercie de votre information, j'en ferai le meilleur usage. Le meilleur usage d'une information, soit tu en fais un flash, tu le cartonnes dans tout le monde et tout, ou alors tu le mets à la poubelle. C'est le meilleur usage. Donc quand ils m'ont dit, ils vont voir la maîtresse, alors que j'avais dîné avec le Monseigneur Capucci le soir même, et on avait raconté pourquoi on l'a invité, on lui a dit, demain on te ménage un entretien avec Georges à la prison. Et il a dit, moi, je vais être prudent, je ne vais pas être piégé. Mais il ne m'a pas dit comment il allait faire. Donc, j'ai appris après qu'il a mis la main. Et donc, quand je reçois qu'il était avec sa maîtresse, il n'a pas de maîtresse. Mais il fallait le salir. Il fallait le salir. Donc, je n'ai pas marché. J'étais à l'AFP. Je m'occupais du monde arabo-musulman, et non pas seulement du monde arabe. Et j'ai fait une information. J'ai dit, une information qui circule, alors qu'il est de notoriété que c'est Pasqua qui l'a invité. J'ai raconté l'histoire de la prison et ils n'ont pas pu faire le décryptage labial. Donc c'est une information qui est passée. Ils sont coutumiers comme ça, les services français, de la déstabilisation. Je vous raconterai un cas personnel après, lorsqu'on a voulu me piéger. Et donc c'est parti comme ça et on a voulu le seuil. Les choses ont continué comme ça. Et donc on est resté jusqu'en 2025 avec un déni de droit dans la patrie des droits de l'homme. Qu'on ne dise pas. Donc, si vous observez pendant 47 ans cette histoire, il y a un décalage entre les principes dont se réclame la France pour se projeter sur la scène internationale, patrie des droits de l'homme, protectrice des chrétiens d'Orient, fille aînée de l'Église, liberté, égalité, fraternité. Il y a un décalage énorme, liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est, il n'y aurait pas eu la colonisation, la fraternité, il n'y aurait pas eu la cristallisation des salaires des anciens combattants de l'Union française au détriment des soldats français pendant 50 ans. On les payait des clopinettes pendant que les Français avaient leur pension d'anciens combattants. L'égalité, la liberté, égalité, fraternité, égalité, il y avait des... On n'est pas égaux. On est des Français de souche, on ne l'est pas. C'est pour vous dire, il y a une projection internationale de la France avec des grands principes, mais la réalité, quand on gratte, il y a un grand décalage. Et quand vous grattez et vous mettez le doigt, donc c'est le cas ici, là où ça fait mal, vous êtes accusé d'être anti-français. Il y en a d'autres cas comme ça, comme le grand remplacement. Le grand remplacement, ce n'est pas un déferlement des Arabes qui sont venus là. Vous savez, là, c'est le bellicisme européen qui est à l'origine des grands remplacements. J'en profite ici pour vous le dire. Il y a eu 1 million de Français tués durant la Première Guerre mondiale. 1 million de jeunes entre 18 et 25 ans. 1 million. Il a fallu reconstruire la France. On a importé d'Algérie, c'est pas dans ce livre, c'est dans le Bounioul, 500 000 Algériens. 500 000 Algériens. On les a fait venir pour construire et contribuer à la reconstruction de la France. 500 000 Algériens. Il y avait 1 million de Français morts, donc il y avait 1 million de France, de filles potentiellement entre 18 et 20 ans en instance de mariage qui n'avaient pas de mari. Donc il y a eu des compilations insulaires, comme on dit là-bas. C'est ce qui explique que Darmanin est d'origine arabe, Danny Boulle est d'origine arabe, Daniel Prévost est d'origine arabe. C'est ça. C'est ça. Jordan Bardella, le chantre de la France pure et dure, est d'origine arabe. Voilà. C'est ça. Là. C'est pas nous le grand remplacement, c'est eux. On a vu le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Mais il y a pire. La France était l'ennemi de la Turquie durant la Première Guerre mondiale. La Turquie a massacré les Arméniens. C'est ce qu'on appelle le génocide. La France a accueilli les Arméniens, pas parce qu'ils étaient protecteurs des chrétiens d'Orient, parce qu'il fallait de la main d'œuvre pour reconstruire la France. Donc, il y a eu les Algériens, 500 000, et les Mais qu'est-ce qu'elle a fait la France? Elle a accueilli les Arméniens. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amputé la Syrie pour donner un district, Alexandrette, à la Turquie. Son ennemi de la Première Guerre mondiale, le massacreur de chrétiens d'Orient, elle leur donne une partie du territoire syrien. Il y a beaucoup de confusion et on continuera éternellement. Ce qui fait que la France, qui était la première puissance continentale au début du XXe siècle, la première, en 1900, la France était la première puissance continentale au début du XXe siècle. En 2018, au moment du mondial, la France a été reléguée à la 7e puissance mondiale. Si vous voyez la hiérarchie des points, en un siècle, elle a perdu 7 places. C'est le seul pays au monde. Et là, dans les commentaires, si vous voyez le titre du, monde, du point de cette semaine, un mollah en moins, il rigole, il se gosse des décapitations de l'Iran ou du Hamas. Et là, l'Iran fait face à deux grandes puissances nucléaires, la première puissance atomique du Moyen-Orient, l'unique puissance atomique du Moyen-Orient, la première puissance planétaire militaire au monde, et elle résiste depuis 25 jours et elle leur tient la dragée haute. Donc il y a un peu ce que je souhaite dire, que l'affaire de Georges Ibrahim Abdallah elle doit nous servir de leçon et nous infliger à un devoir de modestie et avoir un regard critique sur nous-mêmes et avant de jeter l'anathème sur les autres, de nous se livrer à notre propre introspection pour nous éviter la répétition d'erreurs fatales à notre pérennité. Vous dire le fond de ma pensée sur Georges Ibrahim Abdallah, ça je vais le garder pour le mot de la fin. Georges Ibrahim Abdallah a été un bouc émissaire idéal. Un bouc émissaire n'est pas un coupable. C'est un coupable dont on incrimine la culpabilité sans pour autant porter atteinte à l'ordre social. Georges a été un bouc émissaire idéal et c'est le déshonneur de la France d'avoir commis un déni de droit dans un pays qui se réclame la patrie des droits de l'homme. Wassalamu alaikum.
C'était René Naba, journaliste, et on poursuit par notre brique média. Parmi les traits de caractère des Français se trouvent la curiosité, la passion pour les nouveautés, l'amour du changement et des transformations en toutes choses, la courtoisie, le raffinement artistique, mais aussi une certaine tendance au mécontentement. Si 3 Français sur 4 ne sont pas satisfaits du chef de l'État, on le disait tout à l'heure, ils sont 61% à affirmer se méfier du traitement des grands sujets d'actualité par les médias. Les sujets qui intéressent les Français actuellement concernent la hausse du prix des carburants, 80%, les résultats des élections municipales, 77%, et la guerre au Moyen-Orient, 70%, sujet auquel nous consacrons cette émission. Les frappes israélo-américaines en Iran ont plongé la planète dans une crise aux répercussions militaires, diplomatiques et économiques multiples. Une guerre où sont actuellement présents 5000 soldats français au Proche-Orient et 700 au Liban, sans compter la présence militaire française dans les pays du Golfe. Ce n'est pas une guerre lointaine. Concernant ce conflit majeur, un collectif de journalistes, pigistes et de médias indépendants se désolidarise de la couverture médiatique de la guerre au Moyen-Orient. Ils ont publié une tribune à laquelle s'associe notre média Altermidi, dont je vous donne lecture. Nous sommes journalistes, reporters, photojournalistes, pigistes et de médias indépendants exerçant en France et à l'international. Depuis les attaques conjointes lancées par les États-Unis et Israël sur l'Iran, ainsi que la guerre enclenchée au Liban depuis le 2 mars, nous assistons indignés à une couverture médiatique défaillante, lacunaire, déséquilibrée et trop souvent complaisante envers certains récits officiels. Une défaillance qui ne date pas d'hier et qui s'inscrit dans une longue histoire de conflits perpétuels, notamment au Liban Sud, dans les territoires palestiniens occupés et à Gaza, où le traitement médiatique reste systématiquement le même. simpliste, orienté et répétitif, donnant l'impression d'un nouveau conflit à chaque escalade, alors qu'il s'agit en réalité d'une continuité tragique ignorée ou minimisée. Nous demandons qu'à une guerre asymétrique ne soit pas opposée un traitement médiatique asymétrique. Sans essentialiser l'ensemble des médias, force est de constater que trop de journaux, de magazines, de chaînes de télévision et de radio produisent une lecture partielle de cette actualité pourtant majeure, aux conséquences humaines, politiques et géopolitiques considérables. Nous ne comprenons pas les choix éditoriaux concernant les invités conviés à commenter ces événements. Trop souvent, les plateaux sont occupés par des intervenants insuffisamment qualifiés pour analyser des situations d'une telle complexité. Couvrir ces conflits exige pourtant une connaissance fine du terrain, une maîtrise des contextes historiques et une capacité à mobiliser des analyses géopolitiques rigoureuses. Nous dénonçons également un manque criant de pluralisme. Les prises de parole de représentants israéliens sont fréquentes, parfois hégémoniques, alors que même que le chef du gouvernement fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Dans le même temps, les représentants politiques des autres partis impliqués sont marginalisés, disqualifiés ou absents des grands espaces du débat. Cette asymétrie dans l'accès à la parole contribue à orienter la perception du public et à appauvrir la compréhension du conflit. Nous condamnons fermement les commentaires de plateau qui sont sous couvert d'analyse, révèlent trop souvent des prises de position approximatives ou idéologiques. Ils participent à une déshumanisation des victimes, réduisant les morts iraniens, libanais et palestiniens à des données chiffrées, déconnectées de toute réalité humaine, sociale et historique. Nous souhaitons également attirer l'attention sur les usages sémantiques profondément différenciés selon les parties concernées. Là où certains meurent, d'autres sont tués, voire assassinés. Là où certaines opérations sont présentées comme des frappes préventives, d'autres sont immédiatement qualifiées d'attaques. Les choix lexicaux ne sont pas neutres. Ils hiérarchisent implicitement les vies et orientent la lecture morale des événements. De la même manière, le recours au terme « évacuation » pour désigner des déplacements massifs de populations civiles mérite d'être interrogé. Lorsqu'ils sont contraints, organisés sous la menace ou dans un contexte de bombardement, ces déplacements relèvent en droit international humanitaire de transferts forcés, voire de déportations. L'article 49 de la 4e Convention de Genève interdit explicitement les transferts forcés individuels ou massifs, ainsi que des déportations de personnes protégées hors du territoire occupé. Sauf impératif absolu de sécurité, une exception strictement encadrée et dont l'interprétation ne saurait être extensible à des politiques de déplacement généralisées. Nous nous indignons de voir certaines informations émanant des autorités américaines ou israéliennes reprises sans distance critique, parfois en temps réel, tandis que des faits documentés concernant des violations du droit international imputables à ces mêmes acteurs sont systématiquement relativisés, minimisés ou entourés de doutes excessifs. Cette asymétrie dans le traitement de la preuve fragilise la crédibilité du travail journalistique. Nous sommes également préoccupés par la multiplication de chroniqueurs et chroniqueuses présents, non pas pour établir des faits, mais pour exprimer des positions idéologiques. Ce glissement brouille la frontière entre information et opinion, au risque de transformer certains espaces médiatiques en chambres d'écho ou en instruments de légitimation politique. En ce sens, nous appelons nos consoeurs et confrères exerçant dans les rédactions télévisées, radiophoniques et de la presse écrite à large audience à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités. Leur engagement est encadré par des principes clairs, notamment ceux énoncés par la Charte de Munich, recherche de la vérité, vérification des faits, indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques, refus de la manipulation. Nous les appelons à sortir de l'écueil de l'autocensure, qu'elle soit imposée, intériorisée ou structurelle, qui conduit trop souvent à tordre, simplifier ou édulcorer l'information. En agissant ainsi, c'est le droit fondamental des citoyens et des citoyennes à une information libre, complète et honnête qui est compromis. Informer, ce n'est pas relayer. Informer, ce n'est pas hiérarchiser les vies. Informer, ce n'est pas choisir ses mots au service d'un récit dominant. Informer, c'est donner à comprendre avec rigueur, honnêteté et courage. Aujourd'hui, plus que jamais, face à des conflits d'une gravité extrême, notre responsabilité collective est engagée. Poursuit sur les ondes de Radio Escapade la rubrique Média Intermédi avec l'Union européenne qui a sanctionné pour la première fois un journaliste citoyen européen résidant sur son territoire. L'Allemand Hüseyin Dogru, en raison de ses reportages sur Gaza, accusé de diffuser de la désinformation, il se voit privé d'accès à ses ressources financières, interdit de recevoir de l'aide matérielle et soumis à des strictes restrictions malgré l'absence de toute condamnation judiciaire. Fondateur du média indépendant Red, aujourd'hui fermé, Dogru couvrait notamment les mobilisations pro-palestiniennes en Allemagne. Ces sanctions s'inscrivent dans un élargissement des mesures européennes initialement dirigées contre la Russie, mais désormais appliquées à plusieurs journalistes et analystes européens critiques des politiques occidentales. Cette décision prise sans procédure judiciaire suscite de vives inquiétudes quant à la liberté de la presse et aux droits fondamentaux au sein de l'UE. Dogru a engagé un recours en justice, tandis que ses soutiens dénoncent une mesure inédite et potentiellement dissuasive pour les voix dissidentes, en particulier sur la question palestinienne. Altermidi se joint à la campagne contre les procédures Bayon coordonnées par l'association Sherpa, qui combat les nouvelles formes d'impunité liées à la mondialisation, et la Maison des lanceurs d'alerte. Les procédures Bayon sont une forme de harcèlement judiciaire exercée par des entreprises, des institutions ou des personnalités publiques contre des défenseuses et des défenseurs des droits, en forçant leurs cibles à se défendre face à des procédures longues, coûteuses. Ces procédures visent à faire taire les voix critiques. Ce faisant, elles sapent le débat public et sont une menace pour la démocratie. Pour y répondre, l'Union européenne a adopté le 11 avril 2024 une directive contenant divers outils procéduraux visant à contrecarrer ce phénomène. À l'instar des autres États membres, la France doit la transposée d'ici au 7 mai 2026. Dans ce contexte, Sherpa publie un rapport d'étude que vous pouvez retrouver sur son site et qui présente les fondements fréquemment utilisés pour engager les procédures bâillons ainsi qu'une analyse des pistes de réforme à l'échelle européenne et nationale pour lutter contre ces procédures. Ainsi s'achève Alter Midi en escapade, aujourd'hui consacré à un autre regard sur la guerre au Proche-Orient. Si vous souhaitez vous essayer à l'enquête journalistique avec nous, c'est gratuit et cela concerne les habitants du pays viganais. Et vous pouvez nous contacter à travers le mail citoyen@altermidi.org. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne sur le site altermidi.org. Vous procurez le dernier Altermidi Mag dans lequel nous consacrons un dossier sur le rire et une enquête sur la crise du logement en région, dans les kiosques ou en vous abonnant. Bye bye et à bientôt.